Planète Montréal du jeudi avec Kitty Lady Special K et son équipe tous les jeudis de 16h à 17h30 sur les ondes du 102.3 FM. Bienvenue à Planète Montréal, bienvenue Montréal. Alors ici Kitty alias Lady Special K, on est avec vous jusqu'à 17h aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'ai une belle équipe devant moi. Madalina, comment ça va?
Bonjour, très bien. Même
Jennifer. Même si on subit cette température complètement insultante.
Et subit est vraiment le mot.
Oh my God.
Tu vois un peu qui tombe à pile.
Alors pour ceux que ça intéresse, il fait moins 13 degrés Celsius à l'extérieur et la température ressentie est de moins 22 degrés Celsius. Il vente et il neige.
C'est ça.
Ah, c'est terrible, mais notre cœur est chaud et on va vous présenter une programmation tout en chaleur et en couleur. Alors, restez avec nous. Madalina, je suis sûre que tu nous as préparé quelque chose d'aussi intéressant que pertinent. Jennifer, toujours aussi surprenante. On a des invités qui vont venir se joindre autour de la table durant les prochaines 60 minutes. DJ Lix est au contrôle de la console. Alors, on part tout de suite en musique, pourquoi pas, avec mon coup de cœur de la semaine, Akua Naru, qui est une artiste originaire de Philadelphie qui était à Montréal la semaine dernière dans le cadre du Festival Fro, présenté par la Fondation Fro dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs. Oui, on est toujours au mois de février, donc le Mois de l'Histoire des Noirs bat son plein. Donc, j'espère que vous en profitez parce que vraiment, le brun, le noir, le chocolat, le bronzé est la saveur du mois. Il faut en profiter. Il y a tout plein d'activités qui se passent sur l'île de Montréal. J'aime bien mon jeu de mots dans la Caraïbe montréalaise. Donc, on part en musique avec Akua Naru, avec Poetry. How does it feel now?
By windows and doorsteps, play make believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue, a stink attitude so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do. But you. I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison, existing the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. Shit. I wonder how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax. till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me what you like that. Now what you like that. Tell me what you like that. What you like that. Tell me what you like that. What you like that. I'm gonna ask you again now. Tell me. Around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. Same meditation. You know what? This right here is poetry.
C'est vraiment du bonbon. T'as aimé, Jennifer?
Ah, j'ai adoré. C'est détendant. Ça détend. Puis les paroles aussi sont chaleureuses.
Ah, elles sont très chaleureuses.
Ça fait.
Si on avait un petit froid, là, tout est réglé.
Il fait 25 degrés à Montréal.
Surtout sur Planète Montréal.
Absolument.
Madalina, comment vas-tu?
Très, très bien.
Très, très bien.
En bonne compagnie, je vais toujours bien.
Écoute, nice. Cette semaine, tu as eu envie de nous parler des journées de la persévérance scolaire. Puis ça, c'est à notre grand bonheur parce qu'on en parle de moins en moins, hein, d'encourager les jeunes à pas juste rester à l'école, hein, mais de travailler dur, bien, fort.
Prendre des habitudes, de bonnes habitudes.
Voilà, ouais. Parce que moi, je crois, à mon humble avis, que l'école sert à apprendre à apprendre.
Exactement. Exactement, tu as raison. Et d'ailleurs, ça tombe bien de parler de la persévérance au mois de février, n'est-ce pas?
Ah oui, ça c'est un mot-clé.
Persévérance, endurance, ça nous rend plus fort. Effectivement, en ce moment, il y a les journées de la persévérance scolaire et ça dure jusqu'à demain. Parce que cet événement commence donc toujours la troisième semaine du mois de février. Tous les ans, c'est à la même époque. Et c'est un mouvement collectif pour valoriser, comme je disais tout à l'heure, l'éducation. Et ça commence de la petite enfance jusqu'à l'université. Et c'est une initiative qui appartient aux instances publiques, mais qui réunit toute une collectivité. Et il faut savoir qu'à Montréal, il y a toujours des jeunes qui raccrochent et qui décrochent et qui abandonnent les études. Alors, pour donner un exemple, les jeunes étudiants secondaires sur l'île de Montréal sont à peu près environ 20%. 20% de ces jeunes qui abandonnent. Mais il faut savoir qu'il y a 15 ans, quand même, le taux était un peu plus élevé. Il était de 28%, donc ça baisse. Et de la même manière, le nombre de jeunes moins de 20 ans qui possèdent un diplôme ou une qualification sur Montréal et par contre en progression. Donc on est à 73,4% en 2013. Donc il y a des efforts conjugués des uns et des autres et ces efforts rapportent. Car voyez-vous, le décrochage scolaire n'est pas qu'une affaire qui concerne uniquement l'école. Et selon un proverbe africain, ça prend tout un village pour éduquer
et je l'adore ce proverbe.
Mais c'est tout à fait vrai.
Il faut vraiment le comprendre. Oui.
Oui, parce que c'est une implication de tout le monde, de différents organismes communautaires et publics, des municipalités, mais surtout des parents. Ça commence à la maison. Et cela suppose des encouragements, mais des encouragements quotidiens. C'est quelque chose, c'est une affaire de tous les jours pour motiver ces jeunes qui sont finalement démotivés. Et c'est ça que je voulais transmettre un message à nos auditeurs. Si vous voulez faire un geste concret, vous pouvez le faire maintenant même. Maintenant, allez à la station de métro Béré-UQAM, arrivez avant 17h30. Et là, vous pouvez encourager un jeune de votre entourage ou tout simplement soutenir le mouvement en allant et en mettant, en prenant le petit ruban vert et blanc qui est le symbole de la persévérance scolaire. Et vous pouvez prendre même des photos avec des bulles d'encouragement et donc transmettre ces photos aux enfants. Parce que vous savez, les petits mots, ça compte. Les petits mots comme par exemple bravo, super,
tu es capable.
Voilà, ça donne de la confiance. Et vous savez, la société n'est pas tendre avec ces jeunes qui abandonnent leurs études parce que sont les premiers à être mis au chômage lors des périodes difficiles et les derniers à se trouver du travail lors des reprises. Et en plus, leurs revenus annuels moyens sont aussi bien moins élevés et présentent davantage. Ces jeunes présentent beaucoup de problèmes d'estime de soi et d'adaptation psychosociale. Et ils ont même problèmes de santé et d'espérance de vie encore plus courtes que le reste. Mais qui sont ces décrocheurs? Savez-vous qui sont ces décrocheurs?
C'est intéressant. Puis moi, j'aimerais même amener une lumière parce que ce n'est pas que les cancres qui décrochent.
Exactement.
Hein. Souvent même, c'est les élèves trop brillants parce que dans cette société, dès que tu décales, l'excès en tout nuit. Hein. Être trop brillant ou ne pas l'être assez, ben, tu es marginalisé, découragé et tu décroches. Et moi, je connais beaucoup de jeunes qui excellent, qui décrochent parce qu'ils n'arrivent pas justement à trouver un endroit pour pouvoir challenger.
À s'épanouir davantage.
À s'épanouir, voilà.
Pour faire la liaison avec ce que tu disais, Katie, ben, je veux te dire qu'il y a des chercheurs qui sont penchés sur la question. Ils ont fait une petite typologie des décrocheurs. Et alors, les discrets sont des milieux socio-économiques plutôt défavorisés. Ils ont un rendement scolaire faible, bien qu'ils disent aimer l'école. Voyez, après, il y a les inadaptés. Ils proviennent d'un milieu familial difficile avec des problèmes de comportement. Ensuite, les désengagés et les sous-performants. Mais les discrets et les inadaptés sont les plus nombreux. On peut dire un peu que sont les extrêmes, tu vois. Ceux qui aiment l'école, mais ils n'arrivent pas à réussir finalement. Et ceux qui ont des problèmes de comportement. Et les garçons décrochent plus que les filles. Et sachez aussi que les décrocheurs ne sont pas issus que des milieux défavorisés. Et donc, pourquoi ils décrochent? Parce qu'ils ont des difficultés relationnelles avec les pères ou les enseignants. Ils ont des problèmes de dépression, d'estime de soi, comme je disais tout à l'heure, ou de consommation de drogue ou d'alcool. Mais il y a aussi les retards scolaires et la mauvaise conciliation études-travail. Parce que vous savez, ces jeunes-là travaillent de plus en plus tôt. Et même si on regarde les études, en 2012, il y a une étude qui révèle que les étudiants québécois de 15 à 24 ans détiennent le record canadien de plus grand nombre d'heures de travail rémunérées par semaine, avec 14 heures environ.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Donc ça prend du quoi? De l'énergie. Et donc, on est bien fatigué.
Et c'est beaucoup de distractions aussi.
Exactement. Donc, on a une autonomie financière au détriment d'une capacité plus lucide pour les études, parce que la fatigue, ça compte quand même. Même si on veut, on en peut plus à un moment donné. Et l'année passée, je veux vous dire que j'étais présente lors de la conférence de presse de la persévérance scolaire, et j'ai entendu quand même pas mal de discours émouvants de ces jeunes qui témoignaient de leur parcours de décrocheur. Et j'ai revu deux d'entre eux dans les médias cette année, et leur parcours reste quand même inspirant. Je me rappelle de Jean-Sébastien Tardif qui disait avec audace devant la salle « Je me suis accrochée et je suis arrivée car j'ai eu mon diplôme et je voulais que mon père soit fier de moi. » Vous voyez, il y a toujours un objectif, un but pour réussir. on s'accroche à des personnes qu'on aime pour avancer, pour retourner aux études. Et pour vous dire en deux lignes, alors Jean-Sébastien connut les retards et les échecs scolaires dus à des interventions chirurgicales et aux difficultés académiques. Et à 15 ans, il a décroché un secondaire 3 pour prendre pendant 12 ans, c'est long, 12 ans, le chemin de la drogue. Alors aujourd'hui, c'est un jeune homme reconnaissant qui dégage de l'assurance. Il travaille dans la restauration. Il finalise son DES au centre d'éducation pour adultes à Champlain. Et sous peu, il débutera un DP en électricité afin de reprendre la compagnie de son oncle.
C'est magnifique.
Faire son affaire.
C'est inspirant des témoignages comme ça.
Oui, et en plus de le voir en mettant le petit ruban vert et blanc au maire de Montréal, c'est quelque chose quand même pour lui, tu vois, c'est valorisant. Donc, bref, comme le demande le parcours de Jean-Sébastien et comme nous rappelle le proverbe, la persévérance est la mère des succès. Ou rien sans peine, rien sans persévérance et rien sans énergie.
Merci, merci Madalina, c'était vraiment rafraîchissant.
Avec plaisir.
Alors on poursuit en musique avec pourquoi pas Queen Zaya qu'on aime beaucoup ici à Planète Montréal et le titre My Baby Came. En passant, Queen Zaya va performer ce week-end entre autres à l'événement d'Expo Destination Haïti. Donc si vous êtes sur Facebook, écrivez que ça, Expo Destination Haïti et vous allez y trouver tout l'information. Restez avec nous parce qu'après cette plage musicale, je reçois Sergina Guéry, qui est la fondatrice et directrice de Soleil d'hiver. C'est une personne que j'aime beaucoup parce que partout où elle se déplace, il y a un soleil au-dessus de sa tête. Alors, on va pouvoir s'entretenir avec elle tantôt. Oh, oh, yeah.
You into the heat of my child, and ever since the day you came into my life, I feel complete. I am the most precious and wonderful mother on this earth, for I keep you in my womb for 10 months, gave you birth after 7 hours of labors, but still I enjoy every time I see you rise in the morning, coming into my bed, kissing me all over my face and telling me, mommy, you love me. I am so happy to know that you know where you've been, like the only thing you ever wanted was me, baby. I love you, baby. Every time I see your eyes in the morning, yeah, hey, I feel so blessed, baby, to know that you choose me to be your mommy, yeah. And the joy you bring has no way to compare. I wanna let you know, my baby boy, that I'm happy you chose me. I know sometimes I could be hard with you because you're rising up so fast, and I don't have time to see my baby becoming a boy. You're already a toddler walking around and running around telling mommy no, but you know you are smart, so I know what you need to be doing. The love and affection that you gave me make me feel so proud that I am a woman now today, virtuous and very happy and proud. But I want you to know something, my baby, I couldn't be more happy than just to be with you. My baby, yay. The sun you're bringing to my life, oh, yay. Makes me wanna become better. Become better, yeah. The sun you're bringing to my life makes me. I wanna drop it low. Make you feel like the proudest thing in the world. I wanna become better, baby. Just to be the mommy that you deserve me to be, yeah, yeah. I know you're gonna ask me questions one day about where is my daddy, yeah. I want you to know that we really made the greatest effort in the world we could have met, baby, yeah. I wanna drop a lyric, make you feel like the only thing you ever wanted was me, baby.
Ah, ça c'était Queen Zaya. Donc comme je vous ai dit, elle performe ce week-end à Expo Destination Haïti et également ce samedi 21 février à Montreal International Black History Festival. Ça, ça se passe au Centre Phi. Alors vous n'avez qu'à aller sur Facebook, bien sûr, c'est une mine d'or d'informations, et taper Montreal International Black History Festival. Sergina, comment vas-tu?
Ça va bien, Becky.
Oui, ça va super bien. Écoute, moi, à chaque fois que je te vois en cette période de l'année, c'est toujours de bonnes nouvelles. Ça veut dire que soleil d'hiver reprend, revient. Et à chaque année, ça grandit, grandit, grandit. Et cette année, vous avez comme porte-parole le beau Angelo Cadet. Wow!
Quand même.
Très beau.
Quand même.
On se paye le luxe d'avoir Angelo comme porte-parole cette année, en effet.
Mais la formule a un petit peu changé cette année parce que les années précédentes, j'ai eu quand même le privilège de les animer les deux premières années. Là, cette année, c'est la troisième édition.
Quatrième.
La quatrième, my God, les années passent vite. Donc, j'ai déjà animé trois éditions. Là, oui. C'est la quatrième. Et là, le concept est complètement éclaté. Je te laisse nous expliquer un petit peu ce que c'est que Soleil d'hiver pour nos auditeurs qui viennent tout juste d'apprendre que cet événement existait et comment on va pouvoir y participer cette année.
Ben oui, en fait, Soleil d'hiver, c'est simplement le festival du Sud qui réchauffe l'hiver. On s'entend qu'avec les températures qu'on a en ce moment, la neige qui tombe en ce moment même, toutes les basses températures, les moins 20, les moins 25, les moins 30 même, parfois qu'on a eu au courant des derniers jours, on pense aux vacances dans le Sud, à la chaleur, à se réchauffer, à voyager. Donc, Soleil d'hiver, c'est un événement, c'est un festival, comme tu disais, c'est la quatrième édition, qui permet aux personnes qui vivent à Montréal, qu'ils soient de passage ou sur place, de se réchauffer parce qu'on amène toutes les activités ensoleillées qu'on peut retrouver dans le Sud, en plein cœur de l'hiver à Montréal. Donc, effectivement, le concept a changé parce que cette année, on est super fiers parce que c'est la première année où on a 7 jours d'activité. Donc, l'événement dure du 23 février au 1er mars.
Wow!
Oui, quand même, on est passé d'un week-end, une journée et demie, à une semaine.
Un festival!
Un vrai! Donc c'est ça. Puis on a pas mal d'activités. Évidemment, on garde les concerts, les soupers, les choses comme ça, mais on ajoute du surf intérieur, on ajoute du volleyball de plage.
Les années précédentes, ce qui faisait que vous démarquiez, c'est qu'il y avait toujours une plage intérieure.
Oui.
Puis là, j'ai vu que vous déménagiez pour une soirée à la plage Oasis. C'est quand même une plage intérieure dans les quartiers 10-30 à Brossard.
Exactement. Wow. Puis c'est même pendant toute la semaine. On se déplace pendant toute la semaine. On aura plusieurs activités ponctuelles. Donc, on met vraiment un accueil chaleureux, des hôtesses de l'air, équipage et tout ce qui va avec. Pendant toute la semaine, les personnes qui souhaitent s'initier au surf ont droit à un tarif spécial, bon, évidemment moins cher pour dans le cadre de Soleil d'hiver, donc peuvent s'essayer au surf. Il faut savoir que le surf, il y a plusieurs niveaux de vagues. C'est comme une vague qui tourne en boucle, puis on surfe vraiment. Il y a des experts qui viennent surfer quand ils sont en manque de vraies vagues, on va dire. Puis, on peut commencer dès l'âge de 4 ans. Donc, Katie, écoute, ça devrait bien aller. Parce que je suis comme toi, j'en ai jamais fait, mais moi aussi, j'ai très, très hâte.
Je vais donc, plonger, là, j'ai essayé ça.
Puis, on a beaucoup d'activités, en fait, chez eux. Tout au long de la semaine, on a des soupers spectacles. Le vendredi, où tu vas d'ailleurs animer avec le groupe Soleil, qui est un groupe qui a été constitué vraiment pour l'occasion, qui va reprendre des succès latins et de la compagnie créole. On a aussi le défilé de Nacré Design qui se déroulera le vendredi 27. Mais sinon, tout le week-end, c'est-à-dire le samedi 28 mars et le dimanche 1er février, les activités sont gratuites. Donc, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Et les personnes peuvent soit s'essayer au surf, soit manger sur place, soit...
Alors, on peut aller surfer gratuitement?
Non. Le surf, c'est gratuit. L'entrée sur le
la
site est gratuite.
Ouais,
on s'essaye. Mais j'aurais adoré ça. Si j'avais un gros commanditaire, il faudrait que j'ai un gros commanditaire pour que je puisse faire une
Moi,
semaine de surf gratuite.
Moi, je m'inquiète pas, là, tu vas nous organiser ça, Sergina.
L'année prochaine. Mais en tout cas, c'est ça. Puis on met pas mal d'activités sur place pour justement animer, pour que les gens puissent passer une excellente journée ou week-end au complet là-bas. On a un party le samedi soir, la nuit la plus chaude de l'hiver. On a un brunch le dimanche matin au son du steel band. Enfin, on a vraiment pas mal d'activités très intéressantes. Et l'avantage avec Oasis Surf, c'est qu'on se croit vraiment dans le Sud. On se croit sur une plage, on a le son de l'eau qui est le même, exactement le même que si on était au bord de la plage. On peut prendre un cocktail, on peut s'allonger sur des chaises longues. Enfin bon, tout est là pour nous faire voyager.
Comment on peut prendre de l'information et acheter des billets, participer? Je pense que ça fonctionne sous forme de passeport, si je ne m'abuse.
C'est ça. En fait, cette année, on a le passeport Soleil d'hiver qui bien sûr contient la programmation de l'événement, parce qu'il n'y a pas que le surf, il y a d'autres activités comme le volleyball de plage, des ateliers de cocktails, des ateliers de cuisine, des safaris gastronomiques,
wow.
Des concerts. On a aussi un grand concours, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. En fait, le passeport Soleil d'hiver donne l'accès à toutes les activités, l'information à toutes les activités qui se déroulent à travers cette semaine ensoleillée. Donc, le passeport, il est vendu au coût de 10 $. C'est sûr qu'en ce moment, on fait une offre de 2 pour 1. Et juste l'avoir vous donne accès à, par exemple, avoir le passeport Soleil d'hiver. Vous avez droit à plusieurs activités gratuites, notamment, et on a un concert du Sud à l'Assommoir le mercredi 25, où il y aura Fabiano et le Créole Blues Band que tu connais certainement. Donc, vous rentrez gratuitement avec le passeport Soleil d'hiver. Il y a aussi le party La Nuit la plus chaude de l'hiver qui a lieu chez Oasis le samedi 28. Puis, avec présenter le passeport, l'entrée est gratuite, puis fêter jusqu'aux petites heures du matin.
Fait que là, donc, c'est vraiment l'outil précieux.
Oui, exactement.
Donc, pour la 4e édition de Soleil d'hiver, pour avoir plus d'informations, il faut soit aller sur la page Facebook Soleil d'hiver 2015, c'est facile.
C'est ça.
Ou encore, il y a le site web
www.soleildhiver.com.
Et si vous voulez vous procurer un passeport, vous pouvez aussi le faire en vous présentant à Espace Urbain Montréal au 5926 Saint-Hubert au coin de Rosemont. Il y a également plein d'autres points de vente.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'autres points de vente. La liste est quand même disponible sur le site internet soleildhiver.com. Donc, il suffit d'y aller, de voir l'endroit qui est le plus proche d'où vous habitez, dans le fond. Puis c'est avec plaisir que de toute façon, les gens ils vous offriront le passeport. Surtout qu'en ce moment, il y a l'offre 2 pour 1. J'ai oublié de mentionner, enfin je l'ai dit rapidement, que cette année, on a des beaux billets d'avion à faire gagner. On a un grand concours comme chaque année, mais cette année, on a 2 paires de billets à faire gagner aux participants. Donc, on a 2 billets aller-retour vers la Floride à destination de la Floride. Offert par vacances, offert par vacances Sunwing, et on a aussi 2 billets aller-retour vers Varadero à Cuba.
Et comment qu'on participe?
Offert par Corail Bleu. Donc, dans le passeport, chaque passeport a un coupon qui vous permet de participer, mais sinon, si vous participez à n'importe quelle activité de Soleil d'hiver, il y a toujours une boîte concours. Et donc, vous pouvez déposer votre coupon dans la boîte et puis on fait un grand tirage.
En tout cas, moi, je participe.
Oui, hein?
Écoute, merci beaucoup, Sergina.
Merci à toi, Katie.
A.k.a. Miss Soleil d'hiver.
De venir
nous apporter... Ah, mon Dieu. Oh, que oui. Plus que jamais, de venir nous apporter la bonne nouvelle ici à Planète Montréal. Et moi, je te dis à très, très, très,
à très bientôt.
Bientôt,
Katie. Très, très bientôt, en surf.
Oui,
en mode surf.
Alors, on poursuit en musique avec Jay Nice et le titre « Fleurs du désert ».
Insaisissable, fleur du désert. Touareg à sa boutonnière une petite fleur bizarre. On m'a dit qu'elle y pousse seule dans le désert. Serais-je assez naïf pour croire en ces bobards? J'ai pourtant reconnu sur le revers de sa veste ma fleur rare et plus précieux encore. Où il n'y a plus rien, je t'ai cherché, mon introuvable fleur du Ténéré. Où il n'y a plus rien, je t'ai cherché.
Ah, Jay Nice, ça c'est magnifique. Jay Nice va performer ce week-end à la Place des Arts. Alors, si vous aimez sa voix, s'il vous plaît, allez sur Facebook, qui est vraiment une source intarissable d'informations, et tapez Joël Janice et vous trouverez toute l'information sur ses prochains spectacles. Aujourd'hui, à Planète Montréal, on a l'honneur de recevoir un des réalisateurs du documentaire Citoyen de nulle part, Nicolas Alexandre Tremblay. C'est l'invité de Jennifer. Mm-hmm. Donc, Jennifer, je te laisse oh mon Dieu, ça c'était mon ordinateur, pardon, très impertinent. je te laisse t'entretenir avec ton invité.
Merci Katie. Eh bien bonjour chers auditeurs assidus de Planète Montréal. Aujourd'hui, comme l'a mentionné Katie, j'ai l'honneur de recevoir le réalisateur d'un documentaire qui touchera même les cœurs les moins sensibles, Citoyen de nulle part. J'ai visionné un extrait lors d'une soirée à l'Alizé dans le cadre des droits de l'homme. Et j'ai été émue par, entre autres, les témoignages. Et je souligne également la douce narration de notre cher Jean-Claude Martineau. Donc, salut Nicolas.
Salut Jennifer.
Mm-hmm. Donc, je tiens tout d'abord à te remercier d'être mon invité à Planète Montréal.
Ben, ça fait plaisir. Merci de me recevoir.
Oui, tout à fait. Donc, dis-moi, ce qui t'a amené sur cette île magique qu'est Haïti?
Ça a été un heureux concours des circonstances. À l'époque, j'étais un jeune étudiant, puis en quête d'aventure un peu, puis j'ai commencé à faire du bénévolat dans un organisme à Lévis, qui allait dans les batailles en République dominicaine, faire des travaux, vraiment une première expérience. Moi, j'étais accompagnateur, là, j'avais déjà voyagé beaucoup, donc j'accompagnais des jeunes à vivre une première expérience interculturelle, puis aussi à connaître autre chose. Ça a été mon premier...
Donc, ton premier voyage, c'était en République dominicaine?
Ouais.
OK, d'accord.
Du coup, je suis retourné plusieurs fois, puis j'ai fait mon projet de maîtrise en Haïti, donc ça a été début d'une longue histoire avec cette île-là. Ouais.
D'accord, intéressant. Et à partir de ce moment-là, d'où est venue l'idée de faire un documentaire sur ce combat en particulier?
Ça a été vraiment un long périple. En fait, j'ai commencé il y a 4 ans à germer cette idée-là parce que je voyais en République dominicaine que les personnes que je connaissais dans les batailles étaient touchées de plusieurs injustices. Donc, comme je suis cinéaste aussi, j'ai commencé à faire la recherche, à tourner des entrevues. D'accord. Puis en 2013, il y a eu un point de non-retour. Il y a un tribunal dominicain qui a fait en sorte, par le biais d'une décision, qu'une loi s'appliquait, une décision s'appliquait à 250 000 de personnes qui, du jour au lendemain, devenaient apatrides, finalement. Ils ne peuvent plus retourner à l'école. Ceux qui allaient ne peuvent pas aller à l'université.
Les soins médicaux également.
Exactement. Puis ils seront retrouvés dans un genre de limbo juridique qui fait en sorte que plusieurs personnes attendent, finalement, est-ce qu'on va être déporté? Est-ce qu'on... Ils ne savent pas, finalement. Puis le gouvernement, depuis, toutes les solutions qu'on proposait sont complètement impertinentes. Puis ils ont été vraiment critiqués à l'international par plusieurs organismes. Donc, depuis 2013, l'angle du film a changé. Régis Cousseau s'est joint au projet. On travaille ensemble sur ça.
Génial.
Puis, il y a eu vraiment l'urgence d'agir. Donc, on a passé 3 mois l'hiver dernier pour documenter ça. Ouais.
Puis, si c'est pas trop indiscret, là, j'espère que ça te mettra pas dans le trouble, mais quand tu parles d'organismes, est-ce que tu peux nous donner des noms des organismes qui sont comme un peu nébuleux autour de cette affaire?
Tu veux dire autour du documentaire ou...
Pas nécessairement du documentaire, mais du fait qu'il y a ces injustices-là qui se passent puis qui veulent pas apporter une aide quelconque.
C'est pas tellement les organismes en soi. Les organismes qui sont peut-être plus présents dans le dossier, c'est des organismes qui défendent les droits de ces Dominicains d'origine haïtienne-là.
D'accord.
En gros, c'est vraiment le gouvernement le coupable de tout ça, puis c'est ce qu'on pointe du doigt aussi dans le documentaire.
D'accord.
Il faut comprendre d'abord, pour faire une histoire courte, on parle d'un 250 000 d'individus qui sont des migrants de 3e ou 4e génération, que c'est le gouvernement dominicain qui a fait lui-même venir sur son territoire pour travailler la canne à sucre. Puis la décision de la Cour qui est sortie en 2013, c'est une loi qui est rétroactive qui s'applique à tous les gens qui ont traversé la frontière depuis 1929.
D'accord.
Fait qu'on parle de Dominicains avec la peau noire qui parlent pas créoles pour la majorité, qui n'ont jamais mis les pieds en Haïti, qui sont touchés. Fait que c'est un peu, puis le gouvernement, c'est pas une multinationale, là, c'est comme un peu Hydro-Québec finalement, c'est ces plantations de canne à sucre. Puis depuis les années 90, le gouvernement s'est peu à peu retiré de la culture de la canne. Puis on se rend compte que, étrangement, depuis les années 90, le gouvernement cherche par plusieurs moyens déjà de leur retirer leur potentiel de citoyenneté. À certaines personnes ont réussi à avoir des papiers au fil des ans. Mais donc, la grande majorité, serait... non.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ce serait comme leur continuer une certaine méthode d'esclavage.
Ouais, c'est... En fait, c'est un peu aussi la conclusion qu'on en fait, c'est... Le gouvernement ou l'élite dominicaine va toujours avoir besoin d'Haïtiens ou d'une main-d'œuvre bon marché sur son territoire, mais ce qu'ils veulent pas, c'est des Haïtiens ou des Dominicains d'origine haïtienne qui ont des droits, qui ont des papiers, qui sont en mesure de revendiquer des conditions normales pour des travailleurs.
Et au moment où l'on se parle, justement, il y a beaucoup de perturbations sur terre dominicaine en ce qui concerne la situation de ces gens considérés, comme tu disais, des apatrides, littéralement. Mm-hmm. Comment crois-tu que citoyen de nulle part sera reçu là-bas?
Il faut dire que la situation est déjà très polarisée en République dominicaine. C'est vraiment... la situation haïtienne, les Haïtiens sont coupables de tous les maux. Puis pour nous aussi, on pense, notre vision, c'est que ces personnes-là qui sont touchées par la décision de la Cour deviennent un peu les boucs émissaires. Ils font partie d'un débat qu'ils ne devraient pas avoir en ce moment. C'est facile pour le gouvernement de régler la situation, mais il ne fait pas. Et au contraire, il met de l'eau sur le feu. Il crée une amalgame entre les nouveaux migrants qui arrivent à tous les jours, puis ces personnes-là qui sont touchées. Donc, c'est nous, on pense que déjà, il y a des organismes en République dominicaine qui défendent les droits, qui attendent avec impatience la sortie du documentaire.
Ah, okay, d'accord.
Puis pas juste en République dominicaine, en Haïti, ici à Montréal, il y a un comité qui s'est formé aussi pour mobiliser les gens. Aux États-Unis, il y a des organismes. Puis c'est pas juste des gens de la diaspora haïtienne et des Dominicains là-dedans. T'sais, les gens qui sont le plus critiques dans le documentaire, c'est des Dominicains. Puis il y a une chose aussi que je dois rappeler avant de l'oublier, c'est qu'on ne veut pas traiter les Dominicains de racistes. Au contraire, pour nous, ils font partie de la solution. Il faut qu'ils soient eux aussi critiques envers leur élite, puis qu'ils mettent des pressions politiques vers leur gouvernement pour gérer la situation. Pour nous, les Dominicains font partie de l'équation. C'est une infime partie des Dominicains qui est foncièrement raciste, nationaliste, qui se croit... ils font leur identité nationale par opposition à Haïti.
Ils font partie de la solution, ça c'est sûr, sans équivoque.
Ouais. Et le grand lancement de ton documentaire aura lieu le 28 février prochain. Peux-tu nous donner plus de détails à ce sujet?
Oui, enfin! Le petit bébé va voir le jour le 28 février prochain à 20h à l'Université Concordia. C'est dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, organisé par le Festival Fondue au Noir, la Fondation Fabienne Collat, qui va nous amener d'ailleurs le mois prochain aussi en Haïti pour des projections.
Nice.
Le 28 février à 20h, il va y avoir une projection du documentaire en notre présence. Il va y avoir ensuite un débat animé par François Bogingo.
Okay.
Donc, on vous invite en grand nombre. Soyez nombreux. Puis, si vous voulez avoir des billets en pré-vente, c'est sur le site de fondueaunoir.ca.
Et en guise de conclusion, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a des projets pour présenter le film en Haïti?
Oui, c'est ça. En fait, en mars, il va y avoir à date deux projections, une à Port-au-Prince, une à Jacmel, que c'est la fondation Fabienne Collat qui organise un festival là-bas des films québécois. Donc, on a été invités. Puis, évidemment, on va en profiter pour aller voir nos alliés du côté dominicain pour faire en sorte que ce film-là soit vu. Puis, être aussi des acteurs, participer au débat, ramener le débat un peu à l'heure du jour, parce que même si la décision a eu lieu en 2013, on en a entendu un petit peu parler l'année dernière, mais les gens pensent soit que c'est réglé ou ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc le film va permettre de ramener le débat, là, je pense. Ouais.
Merci beaucoup d'être venu ici à Planète Montréal. Donc c'est un rendez-vous le 28 février à 20h à l'Université Concordia. Merci Nicolas Alexandre Tremblay.
Merci beaucoup.
On part en musique avec Freddie V et un titre de prédilection, je pense, au sujet qu'on vient de traiter, Running Free. The longer I stay, the more I lose my mind.
escape. And now I'm on my way. It took me some time to find I was the one with the key.
Ma chérie, un peu de discipline. Alors, de retour à Planète Montréal, je vous rappelle que vous écoutez ici à Radio Centre-Ville. On diffuse tous les jeudis de 16h à 17h30, exceptionnellement aujourd'hui jusqu'à 17h. Je suis très heureuse de recevoir ici en studio Annie-Mélissa Étienne, originairement d'Haïti. Ben, elle vient d'arriver, là, je pense que c'est arrivé hier. Annie-Mélissa Étienne est une designer, entrepreneur qui se démarque sur la scène des affaires en Haïti. Et puis, elle est ici en tournée avec sa nouvelle collection Printemps-Été 2015, des vêtements, bijoux, sacs à main. Et elle est ici dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Elle présentera une soirée, vente, exposition demain soir, le 20 février, à la galerie boutique de notre célèbre chouchou designer, Elmer Joseph, au 2020 boulevard Saint-Laurent. Bienvenue à Planète Montréal, Mélissa. Comment vas-tu?
Ça va, et toi, Katie?
Ça va très bien. Écoute, pourquoi tu as eu envie de venir à Montréal, de quitter ton plus 30 degrés pour nous rejoindre dans notre moins 30 degrés Celsius?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que je me suis beaucoup familiarisée l'année dernière. Et là, je me suis dit, laisse-moi me lancer. Laisse-moi apporter le soleil d'Haïti chez vous.
C'est vrai, c'est pas la première fois que tu viens à Montréal. On t'a vu beaucoup, en tout cas, nous, amoureux de la mode. On a pu te voir sur les passerelles de Black Fashion Week.
Black Expo Design.
Black Expo Design. Vraiment, c'est magnifique ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, bon, par le truchement de la radio, ce que c'est que ce que tu nous présentes? Parce que c'est assez magnifique.
OK. Je dois commencer. Je suis Annie-Mélissa Étienne, une jeune entrepreneure haïtienne, en fait, qui s'est démarquée de la mode il y a tantôt 4 ans de cela. Et l'année dernière, j'ai fait la connaissance d'un beau monde à Montréal qui est tombé amoureux de ma passion, bien sûr. Et cette année, j'ai eu là une brillante idée d'apporter ma passion chez vous. Mm-hmm. Étant donné qu'il n'y avait pas de Black Expo Design cette année, donc je me suis dit, laisse-moi créer moi-même mon événement. Et quand j'ai vu Elmer l'année dernière en Haïti, il m'a dit, ben viens à Montréal et on va faire quelque chose.
Nice.
D'ici est venue l'idée de faire Timel Fashion Night Out chez Elmer. C'est demain au 2020 Saint-Laurent. Donc, en fait, en gros, je vais présenter ma collection de sacs à main et printemps-été 2015. Donc, les gens pourront acheter, venir admirer mes œuvres.
C'est important de mentionner que, est-ce que c'est l'année dernière ou cette année, tu as été récompensée par...
Digicel en
voilà, j'étais tellement impressionnée. J'étais en Haïti à cette époque-là. Oui. Et puis, j'étais vraiment très fière. Je regardais ça, puis je suis comme, mais je la connais! Je la connais!
Oui.
C'est tout un honneur.
Oui, et en fait, chaque année, Digicel met en branle et fait sélectionner des jeunes entrepreneurs d'Haïti. Et moi, j'étais dans la catégorie émergent, donc design, fashion, tout et tout. Et j'ai été sélectionnée comme entrepreneur régional du département de l'Ouest. Et Digicel Entrepreneur de l'année 2014.
C'est quand même remarquable et digne de mention parce que je vois beaucoup d'hommes recevoir ce genre de décoration.
Oui.
Et toi, tu es non seulement une femme, mais tu es une jeune femme, une femme de ton temps,
oui,
une femme urbaine.
Ouais.
Et de recevoir cette distinction, ben c'est toute notre génération qui la reçoit avec
oui,
toi.
Oui, on peut dire que c'est toute la génération et la jeunesse qui la reçoit avec toi.
Voilà.
Ouais.
Alors demain, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre comme soirée, parce que moi, j'ai réservé mon temps, je viens avec des copines, on va se mettre coquettes.
Eh oui.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir là?
En fait, la cerise sur le gâteau, c'est que je suis venue avec un chef et pour faire le cocktail, le bienvenu. Donc, il y aura l'ambiance de la musique et c'est sûr qu'il y aura le raratek, bien sûr. Et il y a le chef qui va servir son cocktail de rêve et c'est le cocktail tropical qui va servir avec des tapas, tout et tout. Et les gens pourront acheter, venir voir mes œuvres.
Alors, il n'y a pas de prix d'entrée, mais venez avec l'argent dans votre portefeuille.
Venez avec du cash.
Ah, ouais, puis venez dépenser parce que ça va être vraiment magnifique. Vous allez avoir des coups de cœur, ça c'est assuré.
Et oui, alors on dit à tout le monde de venir nous voir, venir admirer mes œuvres et aussi d'aller sur la page Facebook, de visiter mes œuvres. Ils pourront acheter aussi et réserver s'ils veulent parce que samedi, je serai encore là chez Elmer, mais demain, c'est la cerise sur le gâteau.
Alors, sur Facebook, on écrit quoi ou comment on te trouve?
T-Mel Collection. C'est T-M-E-L Collection avec un S.
Merci beaucoup, Annie, Mélissa, Étienne.
Merci, Kéti. Ça me donne très envie. Je voulais savoir juste qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces sacs.
C'est la passion que je mets là-dedans.
Ah! Ça, c'est vraiment la très bonne réponse. Alors, on poursuit en musique. Je vous rappelle que vous écoutez Planète Montréal sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Merci.
Car tu ne dis jamais je t'aime. Tu m'apprends la haine car tu ne dis jamais je t'aime. Comprends-moi, s'il te plaît prends-moi dans tes bras, surprends-moi. Mon estime de moi baisse car tu me laisses à la dérive. L'impact sur moi est pire qu'une roche sur un pare-brise. Papa, tu n'es plus là mais tu ne sais pas que j'attends ça depuis tant d'années. Tu as été condamné, mais le passé je n'ai pas laissé. Le voilà, essayant d'embraser mon futur. La peine perdure, mais je persiste à me dire que je ne suis pas une ordure. Le seul héritage à un bas âge aurait pu être une preuve d'affection. J'ai plus d'une preuve d'affliction, causant des frictions dans nos relations. Pourrait-il y avoir corrélation entre tes inactions et mes actions? Toi n'ayant pas de patience, moi recherchant la passion. Comme un océan de choses insensées, tu ne me dis jamais je t'aime. Comme un océan de choses insensées, tu ne me dis jamais. J'étais jaloux des autres parce que leur papa comprenait. J'étais jaloux des autres car de leur papa ils apprenaient comment développer leur caractère.
On vient d'entendre le verbe de Emerical, extrait de la compilation Fro 2015. Et là, bon mon Dieu, oh my God, le temps passe vite. Il est déjà 16h45, on a Pierre ici autour de la table. On a également Michel. Michel, comment allez-vous?
Ça va super bien.
Super bien. Alors Pierre, tu es venu nous parler d'une exposition qui va avoir lieu très 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 bientôt à la Galerie 203. Mon Dieu, le thème de l'émission, c'est vraiment Haïti, hein?
Ben oui. Bien. Alors oui, alors je suis venu pour parler de l'exposition qui s'appelle Pour l'amour et l'art. Ça va être une exposition à la Galerie 203 pour le 28 février, c'est-à-dire samedi de la semaine prochaine. C'est dans le fond, je fais partie d'une organisation qui s'appelle ROC. Le but de l'organisation, c'est on est un groupe de jeunes âgés de 18 à 30 ans et plus même, vraiment on essaye, présentement on aide 3 écoles en Haïti à reconstruire suite au séisme. On a vraiment senti le besoin qu'on voulait faire quelque chose, mais on savait pas exactement. On s'est réunis ensemble puis on a eu des contacts avec des écoles qui avaient besoin d'aide, puis on a tout de suite pris, au lieu de passer par des intermédiaires, on est tout de suite allé directement là-bas. Et puis là on veut retourner pour l'année prochaine. Alors on organise cette exposition avec des artistes haïtiens de Montréal et des amis de la communauté haïtienne aussi, parce qu'il y aura des artistes québécois qui aiment beaucoup la communauté, qui vont venir exposer leur art. Et les tableaux vont être en vente. Ça va être une belle soirée style lounge avec musique, et puis on va passer du bon temps ensemble. Les billets sont seulement 10$ à l'avance, 15$ à la porte, et on attend vraiment tout le monde. C'est vraiment pour une bonne cause. 100% des profits vont aider à ben, au travail qu'on va faire là-bas. Parce
ah
que
oui,
on
il n'y aura pas de frais administratifs là.
Non, il n'y en aura pas. Parce que là, présentement, on est en train de construire des classes pour et emporter du matériel scolaire pour l'année prochaine. Et puis, alors, vraiment, on attend le monde en grand nombre.
Alors, chapeau, parce que ROC, vous êtes un organisme qui organise justement plusieurs activités comme ça au courant de l'année. Moi, j'y serai, artiste que je suis, j'exposerai des tableaux. Mes tableaux seront également en vente. Donc, on vous attend en grand nombre à la Galerie 203, située au 227 rue Notre-Dame-Ouest. Et ça, c'est samedi prochain, le 28 février.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Pierre.
Alors, merci à toi.
Et pour conclure, je donne la parole à Michel, parce que bon, là, on est jeudi, il fait froid, mais si on veut se réchauffer un peu, ce soir, dès ce soir, il y a une soirée Let Your Hair Down qui va se passer juste là, sur la rue Saint-Denis,
oui,
à la place d'à côté.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce concept?
Ben, en fait, c'est un petit concept, vraiment, c'est une initiative vraiment spontanée. Une soirée comme ça, je vivais et puis ben, j'étais à la marche à côté, où est-ce que ça se fait d'habitude. Et puis, je me suis dit, ah, on devrait avoir des soirées cool avec cocktails et tout. Et c'est sorti, je disais, on devrait appeler ça « Let your hair down ». Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, ça veut dire se lâcher lousse, se laisser aller. Donc, puis ça se fait, là. C'est la 4e édition. Et « Let your hair down », moi, je joue le rôle de l'hôtesse et de la mixologue également pendant la soirée.
Et si je peux me permettre, Michel,
oui,
vraiment est une des meilleures mixologues à Montréal. Je vais me déplacer que pour ces cocktails. Non, mais vraiment, donne quelques titres, quelques recettes là, pour nous mettre l'eau à la bouche.
Je ne vais pas te donner les recettes.
Pas les recettes, mais les ingrédients. Mais, hein?
Exemple, donc il y en a un qui est vraiment un des plus populaires, ça s'appelle le Ginger Fire.
Ah,
Ginger Fire, c'est fait avec du rhum, gingembre, bon, petit élément secret, et de la menthe. Quand ils pensent aussi, c'est sûr que mes cocktails, je les appelle les healthy chic cocktails, parce que oui, évidemment, il y a de l'alcool dedans, mais tout ce qui est fait, tout le jus et tout, il est frais fait. Et puis, disons, si on prend le ginger fire, le gingembre, on sait, c'est un aliment super, super, donc qui peut te donner plus d'énergie, aider aussi juste à, vous voyez déjà la température dehors, donc juste à aider un petit peu à réchauffer un petit peu les cœurs.
Donne-en un autre, un autre.
OK, j'en ai un qui s'appelle The Pearly Gates, ça c'est avec de la poire et litchi.
Ah oui, lui.
Poire et litchi.
J'ai tout goûté, moi.
Ah, ouais. Et c'est vrai, je vais donner un petit shout-out à Katie qui a fait le deuxième l'été down avec Miss Queen Zaya.
Oui.
Donc,
je me suis faite une mission pour vous, chers auditeurs, de tout goûter pour que ce soit vraiment un vrai témoignage.
C'est pas du faux témoignage, je l'ai pas payé. Donc, ce soir, en fait, c'est ça. Ce soir, il faut dire, il y a eu un petit changement à la programmation. On était supposé avoir Bella Forte, mais bon, vu la grosse grisaille et le gros temps froid, madame, elle est un petit peu malade. Mais il y a quand même une soirée ce soir. Faut pas oublier, il y a une soirée. On fait ça sur une formule 5 sur 5, 5$ l'entrée, 5$ toutes les cocktails. Et puis, c'est ça. Je voudrais donner un petit shout-out aussi à DJ Lynx, qui a fait nos deux premiers Let Your Hair Down et qui a vraiment, là, elle a déchiré la place.
Mais c'est pour ça qu'on la garde. C'est la meilleure!
Voilà. Alors, ce soir, ça se passe au 5043 Saint-Denis, la marche à côté. Les portes ouvrent vers 9h, 9h30. Venez en grand nombre. Il fait un petit peu moins froid. Donc,
De toute façon, une fois qu'on est rentré dans la place,
écoutez.
Les tropiques. Hein?
Voilà. Let Your Hair Down, 5043 Saint-Denis, la marche à côté. C'est 5$ à la porte, 5$ des cocktails, et puis vous pouvez danser toute la soirée.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Katie.
Ben, c'est comme ça que se termine notre émission pour cette édition de Planète Montréal. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de 90 minutes. Merci à toute mon équipe, Madalina, Jennifer,
bye bye.
Pierre, mes invités, Annie-Mélissa Étienne, Michel.
Bye bye.
J'ai un blanc de mémoire. Merci. Merci de m'aider. Serge Naguiri, merci beaucoup, DJ Lix. Et restez au chaud. Chocolat chaud.
Café
d'Haïti. Hey, le thème aujourd'hui, c'était pas mal Haïti. Alors pourquoi pas terminer en musique avec J-Ron et son titre Pas besoin parler. À la semaine prochaine. We'll be right back.
y a de la belle vie en Enya, oh oh oh. Y a du ruinard pour les chouins, oh oh oh. J'ai les yeux rouges, loup boutin, oh oh oh. Elle a plus rien qui me retient, oh oh. Enculé, album censuré, flot de taré. Tout ce qui est dans le rap vont m'appeler monsieur le curé. Vont m'appeler monsieur le curé, appellation contrôlé d'origine, immigration. Si tu veux me cuisiner, va enlever les lardons. Si t'aimes les pénés, t'aimes la pénétration. T'aimes la pénétration, c'est du petra à l'opposé. Jusqu'à ça, trouville, arrête. Bref, on est doué, tu passes, tu passes, tu passes.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 9e édition des Silly d'Or de la musique du monde. Les Silly d'Or, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com.
Avez-vous déjà eu à chercher des excuses pour couvrir quelqu'un qui était trop ivre pour aller au travail? Pensez-vous qu'un être cher boit trop? La vie avec un buveur problème peut être solitaire et stressante. Mais vous pouvez trouver de l'aide dans un groupe familial à l'annon local, là où les amis et les familles des buveurs problèmes s'offrent du soutien et de la compréhension. Pour plus d'informations, visitez alanon.org ou composez le 1-888-4-ALANON pour trouver une réunion des groupes familiaux à l'annon dans votre localité.
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville, 102,3 FM, un monde différent.
Radio Centreville, 102,3 FM. Un monde différent.
On remercie l'organisme, la ressource et la Fondation Reine d'Esther, grâce à qui ce projet est rendu possible. Tous les propos tenus dans notre émission ne représentent que les membres de l'équipe de Marginal Original.
Auditrices et auditeurs, bienvenue à Marginal Original, une émission sur les thèmes qui touchent à la marginalisation dans notre société. On est une équipe de dizaines de jeunes femmes entre 18 et 30 ans qui font un travail collectif. On vous présente donc à chaque deux semaines deux nouvelles animatrices qui vont vous parler des enjeux qui nous touchent. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Amélie. J'animerai cette émission qui porte cette semaine sur les coupures et le manque de financement des organismes communautaires. Comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, le financement est en déclin dans le milieu communautaire depuis plusieurs années. Depuis que les conservateurs ainsi que les libéraux sont au pouvoir, la priorité est attribuée à la croissance économique au détriment des populations vulnérables. Le gouvernement Harper a significativement coupé le financement à des organismes luttant pour les droits des femmes, la solidarité internationale, l'environnement, l'itinérance ainsi que le logement social. Pour nous éclaircir davantage sur cet enjeu du jour, nous allons vous donner un exemple concret qui illustre parfaitement l'impact de ces coupures sur les organismes communautaires. En première partie, nous recevrons en entrevue Anne-Marie Boucher du réseau Solidarité Itinérance du Québec qui nous parlera du financement SPLI. En deuxième séquence, Salima Moussouni, intervenante au service post-hébergement à la ressource, et Catherine, utilisatrice du service post-hébergement, viendront témoigner de l'impact que ces coupures auront sur elles. Avant toute chose, allons en chanson avec la reine des cow-boys fringants.
N'avais jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait, mais tout le monde la surnommait la reine.
le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Elle se promenait dans le quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des tons et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver près dans le cœur. Les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un baume sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Selon ce que dit Polo, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour immigrer ici. Il y a de cela une couple de décennies, quand on fait son petit gars pis son mari. Qu'est-ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie? C'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre triste éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Hier dans la nuit du 12 au 13, en sortant de son pick-up, a eu comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'ange qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, des gens pleuraient la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Mais au moins, elle a repris ses ailes pour partir vers un monde un peu moins cruel. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle va quelque part où le ciel est bleu.
Le 11 septembre dernier, les organismes communautaires clamaient haut et fort lors d'une manifestation dans les rues de Montréal, un SPLI généraliste et communautaire. Pour nous parler davantage de la SPLI, qui est la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance, nous recevons en entrevue Mme Anne-Marie Boucher, organisatrice communautaire au réseau Solidarité Itinérance du Québec, plus communément appelé le RSIQ. Depuis 1998, le RSIQ regroupe 13 concertations régionales en itinérance et représente 370 organismes au Québec. Le réseau organise des actions et mobilisations afin de sensibiliser décideurs et grand public de défendre les droits des personnes en situation d'itinérance, d'améliorer leurs conditions de vie et de permettre aux organismes d'aide de réaliser leur émission. Rose Flore a interviewé notre invitée.
Bonjour Anne-Marie Boucher.
Bonjour.
Vous?
Ça va bien, merci vous.
Ça va bien.
Merci.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Et ça fait vraiment plaisir.
Tout d'abord, pouvez-vous nous résumer en quoi consiste le travail que fait le réseau Solidarité Itinérance au Québec?
Le réseau Solidarité Itinérance du Québec, c'est un réseau qui travaille depuis un peu plus de 15 ans à défendre les droits des personnes en situation ou à risque d'itinérance. Donc, on fait ça de différentes façons. On va faire des représentations politiques, donc aller rencontrer les ministres, les députés, aller rencontrer les gens du fédéral et du provincial. Okay. Et aussi, on crée un réseau de partage de connaissances et d'aide entre les différentes concertations qui existent au Québec. C'est-à-dire, c'est des regroupements d'organismes dans chaque région du Québec qui vont se regrouper à plusieurs reprises pendant l'année pour partager ce qu'ils font, développer des stratégies dans le but d'améliorer la vie des personnes qui se retrouvent à la rue.
Pouvez-vous nous expliquer plus spécifiquement ce que c'est le financement SPLI, la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance?
La SPLI, c'est un programme fédéral de financement des organismes qui travaillent en itinérance. En fait, c'est un programme qui existe depuis un peu plus de 14 ans maintenant. Et ce programme-là finance depuis ce temps-là les organismes à raison de 20 millions de dollars par année au Québec. Et c'est de l'argent qui se retrouve pour soutenir des actions selon les priorités des régions. Donc, comment ça fonctionne, c'est que le financement va descendre d'Ottawa, mais avant que ça arrive du gouvernement gouvernement canadien, les différentes régions se réunissent ensemble pour déterminer les priorités régionales, c'est-à-dire est-ce qu'on favorise l'hébergement des femmes, l'hébergement des jeunes, le travail de rue, est-ce qu'on construit des logements parce qu'on en manque. Donc, c'est un programme qui permet toute une diversité d'actions depuis le début des années 2000.
La SPLI existe depuis plusieurs années. De quelle façon ce programme de financement a-t-il changé depuis sa création?
En fait, au tout début de sa création, comme je le disais, la SPLI visait à répondre tout d'abord aux besoins des communautés. Donc, l'idée, c'est d'avoir un programme de financement assez versatile pour que si une communauté a besoin d'utiliser, disons, 50% de l'enveloppe pour construire des logements, c'était possible. Si les gens se disaient, ben non, nous, les logements, c'est pas du tout une priorité, donc on va soutenir plutôt des cafétérias communautaires qui vont offrir des repas à faible coût. Il y avait ces possibilités-là, donc d'avoir une variété d'approches. Si on parle à l'échelle du Québec, on parle de 300 postes, donc des postes d'intervenants, de travailleurs de rue, etc., qui étaient soutenus et qui sont encore soutenus par la SPLI, et aussi la construction de logements ou de locaux ou de ressources d'hébergement, etc. Ce qui a changé depuis 2013, c'est que le gouvernement fédéral a décidé de réorienter, donc changer un peu la vocation de ce programme-là pour en mettre l'essentiel, en fait l'essentiel des enveloppes vers une approche qui s'appelle le logement d'abord. Donc, ce qui se passe, c'est que plutôt que les communautés déterminent elles-mêmes leurs priorités, on a des pourcentages minimums de logements d'abord à instaurer dans les différentes communautés. Pour les grandes villes, Montréal, Québec, mais aussi les villes qui les entourent, on peut penser aux Laurentides, à Laval, à la Montérégie, à la Nodière, on demande à ce que 65 % de l'argent qui arrive dans ces régions-là aille vers l'approche logement d'abord. Ailleurs, au Québec, on va parler de 40 %. Donc, c'est quand même tout d'un coup un bon pourcentage, donc une bonne partie de l'enveloppe qui s'en va vers un certain modèle, ce qui fait en sorte qu'il y a des postes qui existent présentement ou des pratiques qui existent présentement qui ne peuvent plus nécessairement être soutenues par la SPLI.
Mais c'est ça, on entend de plus en plus parler de logement d'abord. Mm-hmm. Quelles sont les différences de cette approche par rapport au fonctionnement actuel de la SPLI? Pouvez-vous nous en parler?
En fait, c'est le fonctionnement actuel de la SPLI versus ce qui s'en vient. On parle en fait... Avant, on parlait d'une diversité d'approches. Donc, on parlait d'une SPLI qui était généraliste, donc qui permettait une diversité d'approches pour prévenir et réduire l'itinérance. Avec le logement d'abord, ce qui se passe, c'est qu'on impose en quelque sorte une façon d'intervenir aux différentes régions du Québec. C'est une approche qui a sa pertinence pour certaines populations. On peut penser aux personnes qui ont des problèmes de dépendance, des problèmes de santé mentale. Donc, on sait que c'est une approche qui peut fonctionner, mais qui est très coûteuse. Donc, pour les communautés, on n'a pas une enveloppe plus élevée pour agir auprès des populations et on a une bonne partie de cette enveloppe-là qui s'en va vers une approche très coûteuse. Donc, on peut soutenir moins de personnes, ce qui fait en sorte que toutes les personnes qui étaient sous nous auparavant, ben, on n'a plus nécessairement l'argent pour soutenir tous ces gens-là. Donc, c'est en tant que telle, l'approche... On faisait déjà un genre de logement d'abord auparavant, c'est-à-dire qu'on faisait du soutien communautaire, du suivi intensif en logement. Donc, les organismes le faisaient déjà. La différence en ce moment, c'est qu'on se fait imposer un modèle avec une enveloppe qui va être réduite pour les autres approches qui sont toujours aussi pertinentes. Donc, je dirais que c'est un peu ça, la nuance.
Quelles seront les conséquences sur le milieu communautaire de ce changement d'approche?
Les conséquences, c'est sûr, elles ne sont pas déjà avérées totalement parce que le changement va avoir lieu au 1er août 2015, donc dans quelques mois de ça. Mais les conséquences qu'on peut voir dès maintenant, c'est qu'il y a certaines pratiques qui vont avoir de la misère à cadrer dans le 65 % qui est financé pour le logement d'abord. Ce qui veut dire que tout ce qui est logement transitoire, parfois ressources en hébergement, travail de rue, il y a certaines pratiques de prévention aussi qui risquent d'écoper. Nous, à partir de là, notre stratégie, c'est de voir auprès des différents partis d'opposition fédéraux de gagner, en fait, que ces partis-là soutiennent une SPLI généraliste et communautaire pour faire en sorte que s'il y a changement de gouvernement aux prochaines élections, bien, on va pouvoir espérer gagner un retour à une SPLI généraliste qui va nous permettre d'agir sur différents axes d'action qui sont identifiés comme prioritaires, entre autres, par la politique nationale de lutte à l'itinérance au Québec. Donc, on a identifié qu'il nous fallait une diversité d'actions, qu'il fallait agir en prévention. La nouvelle SPLI nous emmène vers autre chose, vers des pratiques de sortie de rue, mais on ne peut plus agir autant sur la prévention. Mais une chose est certaine, c'est que nous, on se met en action pour gagner des engagements électoraux de la part des différents partis d'opposition. On a rencontré le Bloc québécois aujourd'hui, on a rencontré le NPD, on va rencontrer le Parti libéral du Canada la semaine prochaine. Donc, on vise à gagner un retour à une SPLI généraliste et qui est axé sur les priorités régionales là, qui sont identifiées par les différentes communautés. Donc, je vous dirais que c'est un peu ça. Les impacts, c'est sûr, il y a des organismes qui risquent de perdre garde des postes en nous, mais ce qu'on espère de gagner à court terme là, avec les élections, c'est un retour à ce qui se faisait déjà et qui allait déjà très, très bien pour aborder la question de l'itinérance.
Mais merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Merci encore à Anne-Marie Boucher, organisatrice communautaire au réseau Solidarité Itinérance. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec le RSIQ au 514-659-4733 ou via Internet au www.rsiq.org. Avant de passer à notre deuxième segment, nous allons en chanson avec Loco Locas, Libérez-nous des libéraux. Évidemment, nous pourrions changer ce titre pour Libérez-nous des conservateurs.
Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest.
Merci, mon pitre. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts.
Prêts, prêt, la charrue, charrée, acharnée, charcute en charpie, la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir.
C'est pour tout que militer pour Amir Kadim. Maintenant, la table est mise pour 4 ans à bâtir. À parler, à vue de Yahuri à la vue. La bande d'abrutis qui brade abrite d'abattus. Qui vendent à rabais par la bande. Ce que pas pris, tout le monde finit de payer sans d'un abattu. Coupe son coupe. Pour couper courant populaire, patapouf, étouffe, la foule est légifère, à tombeau ouvert, pis tout sourire, il sert la soupe populaire.
C'est ça être solidaire quand t'as massacré toute ta terre.
Afin de faire taire, un argumentaire, unique en terre d'Amérique, mais son affaire, ça fait bien trop l'affaire, des régions d'affaires, du Canada pis du conseil du patronat.
Baillon, pas baillon, je raille pareil, le patron des patrons.
Taillez
le
taillon.
Hey, c'est le dément, dément, tellement, t'excite tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comment t'aimes le tête à mort des barbares?
Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing.
Libérez-nous des libéraux.
Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux.
Je te dis corps et catégorique, Jean-Charles et Mike Harris, même combat, même charisme, même kermesse. Des biens et services publics, calice, faut que ça finisse la chasse au PS. Pour eux, c'est une business. Inespérés, pis ceux qui dépérissent, ils restent plus qu'à plier pour Saint-Jean-Baptiste. Ça me fait prendre ma race de séparatistes. Y'a pas de place, on peut pas faire la place. Contre-performance pour la SGF, pour les CPE
ou les SDF.
Un impôt sur la quête, tiens, ça serait pas bête. Ça dirige le Québec comme une PME, comme un pimp, c'est pute pour que la ligne PIPS. Dis, ça c'est, ça se connaît. La clé du succès pour le 24 succès, c'est d'asexuer le Québec. Quel beau sujet pour Jean-Claude Labrec. À hauteur de gnome, hauteur de braguette. Versus c'est debout, c'est ça se tenir drette.
Je suis prêt.
On est loin de maître chez nous. Maintenant comme jamais, y'a un traître chez nous. Ça sent pas quand il parle comme un derrière de boîte de céréales. Si tu penses me faire taire, tu perds ton temps, t'es tarissable. Je vais sous ton ciel musé, je suis ton féal.
Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing.
D'être ici avec vous dans votre chanson, ça me permet de rejoindre un public qui en général a été
un des l'objectif de notre émission marginale originale est de vous faire profiter de partage par rapport aux enjeux qui nous préoccupent. Pour cette émission, Salima Moussouni, intervenante au service post-hébergement dans la maison d'hébergement pour jeunes femmes en difficulté La Ressource, ainsi que Catherine, utilisatrice du service post-hébergement, nous témoignent de leurs inquiétudes alarmantes face à ces coupures venant d'un gouvernement qui ignore les enjeux des populations vulnérables. D'abord, Salima, c'est surtout le suivi aux personnes dans le besoin qui vous inquiète.
Certainement, mais je vais d'abord vous parler du service post-hébergement. C'est quoi? Donc, c'est un soutien psychosocial offert aux femmes qui quittent la ressource, la maison d'hébergement, après y avoir séjourné de quelques semaines à 2 ans. Les raisons de la création du service post-hébergement, c'est à cause que les femmes se retrouvaient livrées à elles-mêmes après avoir bénéficié d'un support soutenu lors de leur séjour à la ressource. Sans aucun soutien, elles se désorganisaient et perdaient leurs acquis et finissaient par retourner dans les centres d'hébergement. C'est ce qu'on appelle le phénomène des portes tournantes. Par rapport au rôle des intervenantes, comment on apporte de l'aide aux femmes? On essaie d'éviter que les femmes se retrouvent à nouveau dans une situation de précarité. On essaie de leur offrir un support sur le long terme, tout en les aidant à développer et à accroître leur autonomie. On travaille aussi en collaboration avec les autres professionnels. On agit comme intermédiaire pour favoriser l'intégration des femmes dans leur milieu. Concrètement, ce qu'on fait, c'est des suivis personnalisés sur une base régulière où les objectifs sont travailler avec la femme. On fait aussi des accompagnements de tout ordre, médical, juridique, recherche d'emploi, recherche d'activité, recherche de logement. Par ailleurs, on fait des activités de mobilisation pour aider les femmes à développer leur plein potentiel et les aider à briser leur isolement, à avoir un groupe d'appartenance, à développer leur capacité à entretenir des saines relations interpersonnelles. Qui sont les femmes qui utilisent les services, nos services? C'est des jeunes femmes, pour la plupart, vivent des situations d'isolement et qui sont aux prises avec des difficultés. L'exclusion sociale, violence, santé mentale, toxicomanie.
Et la SPI là-dedans, comment elle intervient et surtout, quels sont les enjeux actuels que vous vivez au postage?
Bon, je vais vous parler un petit peu de la SPI, le financement surtout, parce que les enjeux tournent autour du financement. La SPI finance 2 postes, un poste à temps plein et un deuxième à temps partiel, excusez-moi. Elle finance également les collations lors des activités de groupe, lors des rencontres avec les femmes ou lors des accompagnements. Elle finance aussi des cuisines collectives une fois par mois et des dépannages alimentaires. La situation actuelle est très difficile parce que nous ne savons pas si nous allons encore être financés. Nous le serons jusqu'au mois de juillet. Ensuite, 3 scénarios sont possibles. Pour la période allant de 2015 à 2019. Le premier scénario, c'est qu'on va être coupé complètement, donc plus rien, absolument rien. Deuxième scénario, c'est ça va être renouvelé, mais avec des coupures. Et l'enveloppe gouvernementale, 65% de l'enveloppe sera allouée au financement du résidentiel avec accompagnement. Ensuite, les 35% qui restent, 90 intervenants qui travaillent dans 50 organismes communautaires se le partageront. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'argent pour tous les organismes et tous les services. Le troisième scénario qui est peut-être, on l'espère, mais que ça va être difficile qu'il se réalise, c'est qu'il soit renouvelé tel quel. Par rapport à notre travail, ce qui est important dans notre travail, c'est que nous faisons un travail de prévention. Donc, nous agissons avant que la situation de la femme se détériore. Grâce à notre proximité et notre présence, les femmes ont un support concret et soutenu. Si le gouvernement retire le financement, ça va coûter plus cher à long terme. Le financement est un investissement à long terme pour favoriser une réinsertion sociale et durable. Nous, les organismes communautaires et les intervenants, devons continuellement prouver que notre travail est nécessaire. Nous mettons beaucoup d'énergie à rendre des comptes pour chaque dollar utilisé. Nous fournissons des rapports détaillés, des statistiques, des preuves à l'appui. Dans nos rapports, le gouvernement nous demande des résultats rapides et concrets par rapport à l'autonomisation des femmes, mais ces exigences sont-elles vraiment réalistes? Pour que les personnes deviennent autonomes, ça prend du temps et de l'investissement. Ces femmes-là ont besoin de soutien. Certains d'entre elles en auront besoin pour très longtemps. Mais la SPLI, les personnes qui nous demandent des rapports, c'est des personnes qui sont loin de la réalité de ces femmes-là. Et la communication entre nous, il n'y a pas une communication directe. Donc, ils ne cherchent pas notre expertise pour essayer d'utiliser le financement adéquatement. Donc, c'est ça qui est dommage. Puis, on espère que le gouvernement revienne sur la décision de couper dans les budgets. Et c'est vraiment très important de garder ces budgets-là.
Merci, Salima. Je rappelle que vous êtes intervenante au service post-hébergement de la maison d'hébergement pour jeunes femmes en difficulté, La Ressource. On laisse maintenant la parole à Catherine qui profite aujourd'hui de ses services post-hébergement financés par le SPLI pour une période encore indéterminée.
En ce moment, j'utilise les services du post-hébergement. En gros, une intervenante est présente pour moi à certains moments de mon cheminement. Je vis actuellement dans un immeuble d'appartement supervisé. On est une vingtaine de femmes de tous les âges. Je suis dans les plus jeunes. On a une salle communautaire avec télé, activités, avec des heures fixes précises d'ouverture. Les intervenantes sont là à des heures fixes et les nuits de semaine, il faut gérer soi-même nos problèmes et angoisses par nos propres moyens. Ces moyens-là de gérer nos différents stresseurs sont élaborés en suivi rapproché avec les intervenantes de ces appartements supervisés. Je suis partie récemment d'un centre d'hébergement où j'ai vécu pendant 16 mois. Les intervenantes étaient alors disponibles 24 heures sur 24 pour nous. Quand j'avais un problème, n'importe quand, j'avais le soutien dont j'avais besoin. Après un an d'hébergement, j'avais le désir de trouver un autre endroit ou être plus autonome. J'ai entrepris des démarches pour me trouver un logement et j'ai trouvé un appartement supervisé. J'avais beaucoup de craintes face à cette vie autonome, la peur de la solitude et de l'ennui. Mais lors de ma transition, j'ai pu obtenir une rencontre bilan de mon séjour à ce centre d'hébergement. Cela fait partie des services offerts par le postage. C'était là pour me diriger vers une meilleure transition vers cet autre logement. Pourquoi le postage est si important? Lors de certaines difficultés d'emploi, j'ai pu avoir un dépannage alimentaire. On m'a permis de mieux gérer mes sous. Sans le postage, je n'aurais pas pu manger jusqu'à mon prochain jour de paye. Surtout, je n'aurais pas aussi eu de rencontre bilan pour me permettre de bien cibler mes besoins. En gros, j'aurais eu des services, mais certains auraient été dédoublés et d'autres auraient été absents. Après tout, ma nouvelle intervenante ne me connaissait pas du tout et le bilan que m'a offert le postage m'a permis d'avoir exactement ce dont j'avais besoin. Par exemple, je suis allée aux urgences psychiatriques récemment. Ils ont appelé mon intervenante des appartements supervisés. Elle leur a dit « Je ne la connais pas beaucoup, mais je sais qu'elle-même connaît bien ses symptômes d'instabilité. Donc, vous pouvez vous fier à elle, lui faire confiance. » Je n'aurais pas pu comprendre certains de mes symptômes si je n'avais pas eu le bilan du postage. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de soutien autour de moi. Par contre, d'autres femmes du post-hébergement sont en appartement autonome et vivraient une très grande solitude, une situation de précarité inquiétante si le postage n'était pas là pour elles. Ces femmes-là ont comme seule ressource le postage. Et si elles perdaient cette ressource, elles vivraient un grand risque d'itinérance.
Merci à Salima Moussouni et à Catherine de nous avoir fait part de leur inquiétude. Par le message véhiculé par ces deux femmes, nous pouvons comprendre que la SPLI est fondamentale pour prévenir l'itinérance. Tire à fin. Merci d'avoir été à l'écoute. On tient à remercier la Maison d'hébergement pour jeunes femmes en difficulté, La Ressource, et la Fondation Rêve d'Esther, grâce à quoi cette émission est rendue possible. On remercie aussi l'équipe de l'émission Planète Montréal de nous offrir ce temps d'antenne. On vous invite à réécouter et télécharger cette émission de Marginal Original. Rendez-vous au www.radiocentreville.com. Dans la section Émissions spéciales, toutes nos émissions sont là. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine émission.
Et pas n'importe comment. Je veux qu'ils financent une économie au service des gens dans le respect de l'environnement. C'est pour ça que j'ai choisi le placement à rendement social de la Caisse d'économie solidaire. Plutôt que d'être joué en bourse, mon argent est prêté à du vrai monde pour faire des projets qui répondent à des vrais besoins. C'est ça, l'économie sociale. C'est des coopératives d'habitation, de travail, c'est des CPE, c'est la Maison du développement durable dans laquelle je me trouve, qui est devenue une source d'inspiration pour la construction écologique. C'est la coop La Mauve de Bellechasse qui réunit plus de 40 producteurs et artisans pour nous offrir des produits d'ici. Bref, si vous souhaitez des REER qui rapportent vraiment, il y a 2 incontournables. La Caisse d'économie solidaire et le placement en rendement social. C'est mon choix.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution? Bureau comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôts à un prix compétitif. Cette année, confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au bureau comptable Cola. Pour connaître le point de service le plus près de chez vous, appelez dès maintenant les bureaux comptables Cola au 514-374-0137. Au 514-374-0137.
Rádio Centro-Ville são 40 anos de existência. Programas em português de segunda a sexta, 17h30, domingo, 16h. A Rádio Centro-Ville é no 102,3 FM, em Montreal e arredores. Siga-nos no Twitter e Facebook. E visite o nosso sítio internet, radiocentroville.com. Até já.